إكسبريسو اسمع تونس تقدم.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مثلا مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. تشويت نحكي وكما قلت لكم على ممكن مجال مش معروف برشا من العموم، ممكن موضوع معناتها تقني شوية، ولكن موضوع مهم واستراتيجي جدا. نحكي على الكابل سومغا، هذوما الكابل اللي تعداو تحت البحر، في البحر سامحوني، بدأوا خطر في القاع أو بفورسيمان تشوفوا بعض الصور باش تفهموا معناتها التكنولوجيا هذوما. وفما اليوم برشا توجهات معناتها في البحر الابيض المتوسط، فما مشاريع، فما معناتها القارات الكل كونيكتي اليوم بالكابل، كانت نجموا تستعملوا انترنت سي غراس سي كابل اونتر اوتر معناتها اليوم. فحبينا نسلطوا ضوء على هذا الكل، وين تونس، تموقع تونس من هذا الكل. حضر معنا السيد داميا بيرتران اللي هو خبير دولي في الاتصالات وفي الكونيكتيفيتي، نحكيوا معاه، هو يتم شركه افريكس تيليكوم. بونجور.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation ce matin. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, un petit peu voilà, c'est où on est la Tunisie de tout ça. Il y a tout un business, tout un monde hein, sous-marin aujourd'hui de câbles. Il y a même des petites, peut-être pas des guerres, mais en tout cas, plusieurs pays veulent se positionner. Aujourd'hui, pour passer des câbles sur l'Afrique, on n'est même pas obligé de passer par la Tunisie. Ça peut passer à côté, ça peut passer par les pays voisins, ça peut passer de l'autre côté. Il y a des projets de câbles sur toute la partie ouest de l'Afrique. Il y a énormément de projets de ce type. Donc voilà, je voulais arriver à cette question. Comment la Tunisie peut capter peut-être une partie de ce business? Il y a quelques mois, le ministre même d'Éthique, M. Fadak Karim, s'exprimait. Il avait évoqué cette idée de port numérique. On va parler de ça, on voit ce qui se passe du côté de Marseille aujourd'hui, qui arrive à attirer des entreprises comme Amazon, etc., comme Google, des grandes entreprises qui investissent. Et on connaît Marseille pour son port, qui est un port stratégique pour la France, où plus de 8 milliards de large transitent par ce port, mais également presque autant sur ce qu'est ce port numérique. Voilà, on va essayer de parler de tout ça. Et on va essayer de voir, comme je disais, quelques photos pour que les gens puissent comprendre ce qui se cachait derrière. Alors, pour commencer, quels sont ces câbles sous-marins?
Un câble sous-marin, c'est une ligne de fibre optique qui interconnecte deux points ou deux pays. Mmh. Donc ça peut faire quelques dizaines de kilomètres ou quelques centaines ou quelques milliers. Et donc c'est comme de la fibre terrestre, sauf qu'elle est évidemment préparée, protégée pour être sous les mers, sous les océans et donner ce service d'interconnexion. Et c'est un secteur passionnant parce qu'en ce moment, on a en plus, sur ces dernières années, une évolution extrêmement rapide, extrêmement importante de ce secteur en volume, en technologie et en business model. C'est en train d'évoluer à très grande vitesse.
Voilà. Aujourd'hui, en parlant de ça évolue à très grande vitesse, sans jeu de mots justement parce qu'on parle connectivité à très haute vitesse, que représente nous et Mathlo Lyoum, la Tabedoulet et Zouma, Antarik, les câbles sous-marins Zouma, donc que représentent les flux intercontinentaux assurés par ces câbles sous-marins aujourd'hui?
Pratiquement la totalité, en fait, on pourrait dire 99%, que ce soit de la voix et surtout de la donnée, des flux intercontinentaux passent par les câbles sous-marins. Le satellite et le reste, c'est vraiment extrêmement mineurs. Donc c'est les câbles sous-marins qui sont la colonne vertébrale de cette connectivité internationale.
Bien évidemment, ça c'est par rapport à ce que représentent un petit peu ces flux internationaux. Donc aujourd'hui, sans ces câbles-là, on ne pourra pas être connecté.
Non, ce serait parfaitement...
Par Internet, par satellite, etc. Est-ce que ça peut être une vraie...
Non, en termes de capacité, en termes de coût, etc., c'est la seule solution qui n'est pas nouvelle. Hein. Les premiers câbles, c'est 1850, les premiers câbles sous-marins entre la France et l'Angleterre. Et depuis l'évolution, évidemment, donc on a commencé avec du cuivre isolé, si je peux dire, puis du coaxial, puis du numérique... Et les dernières évolutions, donc on a déjà 170 ans de câbles sous-marins, mais c'est en train d'accélérer sur les 10 ou 20 dernières années.
Alors, justement, ces câbles sous-marins en service, pouvez-vous nous donner peut-être une cartographie, entre guillemets? On a quelques photos qu'on est en train d'afficher. Edmé, je vais vous montrer des photos dans la vidéo, je vais vous montrer dans les moments de ce moment, pour voir les câbles sous-marins. Donc, je vais vous parler aussi des échanges de symbiose. Les câbles sous-marins en service, où est-ce qu'on les trouve? La longueur peut-être de ces câbles aujourd'hui?
Vous en trouvez partout, si je peux dire. 450 à 500 câbles sont en service actuellement mondialement. et ce serait de l'ordre d'1 200 000 kilomètres de câbles en tout. Donc c'est énorme. Et j'insiste, il y a une diversité de taille, de capacité. Et chacun cherche, parfois c'est États-Unis, France, parfois c'est, vous avez nommé autour de l'Afrique, il y a un nouveau projet, le To Africa, qui va faire 37 000 kilomètres. Depuis l'Angleterre, surtout depuis Lisbonne, Portugal, toute l'Afrique de l'Ouest, du Sud, il remonte tout l'Est avec une vingtaine d'atterrissages, rentre en Égypte, en Méditerranée et finira sur Gênes, Marseille et Barcelone. Et vous avez mentionné le port de Marseille. Aujourd'hui, on estime qu'à Marseille, en effet, 8 milliards, c'est à peu près l'impact économique du port traditionnel de Marseille, et 8 milliards, à peu près autant, c'est le même impact, le port digital de Marseille. Donc, ce qui a été la tradition, l'activité traditionnelle, aujourd'hui, Marseille a réussi à la doubler, si je peux dire, grâce à cette nouvelle activité.
La longueur de ces câbles, vous avez dit, aujourd'hui?
Plus d'un 1 200 000 kilomètres. Vous en avez énormément.
1 200 000 kilomètres, mais les câbles, maintenant, l'Europe, tous les continents, ça connecte tous les continents, ça connecte tout ce monde. Marseille, justement, puisque vous l'évoquez, je l'ai évoqué au début, je parlais de Marseille, et Marseille, aujourd'hui, le miné, c'est le plus connu dans le monde, où il rentre une partie énorme de la commerce française, c'est 8 milliards de dollars, c'est le volume de la commerce française qui passe par Marseille. Mais une chose qui n'est pas connue, ou la moins connue, c'est que Marseille a un miné rakmi, un port numérique, miné rakmi, qui rentre aujourd'hui, on dit, il rentre plus que le miné normal, miné qui nous connaît, c'est la commerce française normale. اليوم كيفاش تونس تستقطب هذا باش نرجعوا له مي حبيت نركز على الرقم هذا vous confirmez bon ça c'est l'exemple de Marseille, il y a peut-être d'autres exemples aujourd'hui, c'est-à-dire on arrive à avoir autant de flux, je veux dire en argent, enfin en
oui
business.
En impact économique, c'est Marseille a doublé, j'allais dire, son port. Le port numérique représente autant de business que le port traditionnel, on va dire en une phrase. Et l'avantage aussi, au-delà de Marseille, c'est que c'est devenu tellement important. Dans les télécommunications, il faut de la diversité. Donc maintenant, on en est à 14 câbles sous-marins sur Marseille. Ce qu'on veut, c'est de la diversité. Donc, il y a un besoin. Et les deux villes, naturellement, qui vont permettre cette diversité, c'est Gênes, en Italie, et Barcelone, en Espagne, qui sont en train de monter en puissance. Donc, ce que l'on voit, c'est que avant, c'était l'Europe du Nord, l'Angleterre, Paris, etc., où se dirigeaient les flux de data. Maintenant, c'est descendu en Europe du Sud. Et la prochaine étape, ce sera de traverser la Méditerranée. Je ne peux pas vous dire si c'est dans 3 ans ou dans 5 ans ou quand ce sera, mais c'est l'Afrique du Nord qui devrait être jouée, prendre sa place numérique.
Alors, aujourd'hui, quels sont les acteurs majeurs du business des câbles? Qu'on est derrière le business?
Alors ici aussi...
pays, entreprises, etc. Enfin, voilà, avoir la cartographie business.
On peut voir deux aspects, l'aspect fabricant et l'aspect client-utilisateur. Les fabricants, il y a 4 grands fabricants dans le monde. Il y a Alcatel Submarine Network, qui est français, enfin, et finlandais, européen. Vous avez Subcom, qui est américain. Vous avez NEC, qui est japonais. Et vous avez HMN, qui est chinois. Les deux premiers ont chacun 40% de part de marché. Donc, avec ASN et Subcom, vous avez 80% de part de marché. Et les deux autres sont les deux challengers, disons, qui se partagent le reste. Et en ce moment, il y a une telle demande qu'ils n'arrivent pas quasiment à faire face à la demande. Hier, a été annoncé officiellement 360 millions d'euros d'investissement de Nokia dans ASN. Ils vont mettre 70 millions d'euros de plus dans leur fabrique, dans leur usine à Calais, et ils vont mettre un nouveau bateau câblier en service.
360 millions d'euros d'investissement.
Annoncé hier par Nokia dans leur fabricant Alcatel Submarine Network.
360 مليون دولار 360 مليون يورو البارح تم الاعلان اليوم من قبل معناتها شركه نوكيا استثمارات معناتها اليوم في هذا المجال دونك encore une fois pour investir dans les câbles des bateaux enfin
qui les navires câbliers et la fabrication des câbles sous-marins. Ils vont passer de 6 à 7 navires câbliers. Donc ça c'est côté fabricant. Beaucoup de mal à répondre à la demande. On est sur un marché où c'est compliqué. Si aujourd'hui vous voulez faire un nouveau câble sous-marin et vous le commandez mi-2021, on va sans doute être en service en 2024. Donc il faut voir loin, il faut s'y prendre tôt. Donc ça, c'est côté fabricant. Côté utilisateur, côté opérateur, une évolution aussi extrêmement rapide. Si on prend les 6-7 dernières années, auparavant, vous aviez les opérateurs historiques. mettons Tunisie Télécom, Télécom Italia, Orange, etc. C'était eux qui faisaient les câbles, qui avaient leurs câbles. Puis, leurs propres câbles. Je sais pas, Telefonica faisait Barcelone-Baléares. Puis, il y a eu des câbles internationaux entre deux pays. C'était moitié-moitié, c'était nos-nos entre, je sais pas, le nord du Maroc et le sud de l'Espagne. Puis, il y a eu des câbles, des consortiums. La Tunisie est sur un câble qui s'appelle le Simiwi 4, qui vient d'Extrême-Orient, finit à Marseille, et a une branche, un atterrissage à Bizerte. Et donc là, vous avez 16 membres du consortium, ça fait 20 000 km de long, il y a deux paires de fibres, et sont partagées, est partagée la capacité entre tous les membres. Ça, c'est le modèle, je crois que c'est 2005 qu'il a été mis en service. Et aujourd'hui, il y a en fait, donc, les opérateurs traditionnels, aujourd'hui, doivent lancer un tiers à peu près des câbles sous-marins. Celui qui est apparu, ce sont les OTT, les Amazon, les Google, les Facebook. Eux font à peu près aussi un tiers des câbles aujourd'hui, sous-marins, alors qu'ils étaient à zéro il y a 5-6 ans. Donc c'est impressionnant cette évolution. Et enfin, une dernière figure, c'est des opérateurs neutres de câbles sous-marins mutualisés qui font à peu près aussi un tiers des câbles aujourd'hui.
D'accord. Alors, ça c'est par rapport aux acteurs majeurs de ce business aujourd'hui. Bien évidemment, bon, c'est les fonctionnalités, les fonctions sont différentes. Il y a les constructeurs, il y a les installateurs, etc. Enfin voilà. Quelle est la durée de vie et en fait la capacité ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des investissements colossaux. Vous dites qu'il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui.
Exactement.
Donc, quelle est la durée de vie de ces câbles ?
Ils sont dessinés pour 25 ans. Techniquement parlant, c'est 25 ans. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que finalement, même les câbles qui aujourd'hui sont dans l'eau depuis 10 ou 15 ans, technologiquement, peuvent être dépassés, entre guillemets, parce que l'évolution est très rapide. On avait deux paires de fibres en 2005, mettons. Aujourd'hui, ça va à 20-24 paires de fibres. En capacité totale, pour donner un chiffre en téra, en 2010, un câble avait peut-être 5-6 téra. Aujourd'hui, ça peut être 200 téra. Donc, on multiplie toutes ces capacités à une vitesse de la lumière, j'allais presque dire, pour des câbles sous-marins. Et donc, même les câbles qui ont 10-15 ans, qui pourraient continuer, techniquement ne sont peut-être, et économiquement, ça coûte relativement cher de rajouter de la capacité. Et donc, il y a tout un remplacement de câbles existants pour plus de capacité et pour finalement un coût par unité, par bit, qui soit le plus compétitif possible. Il y a une concurrence internationale par pays qui se met en place. Mmh. Et pour une connectivité, parce que ça impacte dans chacun des pays, évidemment, où sont les câbles, où alors, atterrissent les câbles.
Très bien. Oui. تونس اليوم البارح قابلوا وزير التكنولوجيا معناتها سيد فضل الكريم اللي قلت لكم تكلم قبل في بعض المناسبات على إمكانية أنه تونس يكون فيها ميناء رقمي معناتها je parlais de monsieur le ministre qui a évoqué à différentes reprises la possibilité ou l'envie en tout cas d'avoir un port numérique en Tunisie. Vous l'avez rencontré hier, je présume qu'il vous a certainement parlé, évoqué tout ce projet qu'il a. Alors où on est la Tunisie de ce business ? Comment on peut capter une partie de ce business ? Qu'est-ce que Tunis n'aime pas startup juste mais le business est là.
La chance de la Tunisie, c'est sa position géographique au cœur de la Méditerranée, entre Méditerranée orientale et occidentale. Naturellement, géographiquement ou géonumériquement, on pourrait dire, la Tunisie est vraiment bien placée. D'autres pays, trop à l'ouest ou trop à l'est, ne pourraient pas jouer ce rôle. Donc, il y a cette géographie. Il y a aussi la géographie entre guillemets sous-marine qui fait que pratiquement tous les câbles de la Méditerranée, et en Méditerranée on a ce qui vient du proche Moyen-Orient, Extrême-Orient, ils passent tous entre la Sicile et la Tunisie. Donc la Tunisie est idéalement placée. Et en plus au niveau fond sous-marin, si je peux dire, également une ville comme Bizerte est naturellement favorable pour faire atterrir des câbles. Donc en fait il y a une opportunité pour la Tunisie, d'avoir ce port digital. Il y a des initiatives ici, comme l'African Digital Hub et Smart City qui essayent de pousser là-dessus. Et la Tunisie pourrait prendre sa place numérique de deux façons, j'allais dire, nationalement, pour la connectivité de la Tunisie, on a dit que c'est 25 ans un câble sous-marin. C'est une génération. Donc pour la prochaine génération, pour les enfants tunisiens d'aujourd'hui, c'est ça, les choix qui sont faits en ce moment vont impacter sur toute la prochaine génération tunisienne. Et deuxièmement, internationalement, la Tunisie peut avoir un rôle de gateway, de pont numérique entre une Afrique du Nord et subsaharienne en partie, et cette Europe qui est à proximité. Et ça, c'est l'opportunité que peut saisir la Tunisie.
اولا يحكي على الموقع نتاع تونس الموقع جيوستراتيجي تونس وحتى لاسباب علميه حتى vous parlez même de la profondeur
de la remontée
معناتها اليوم تونس مأهله انه تستقطب معناتها نوع هذايا من الاستثمارات ومن الكابل. يقول ايضا القرارات نتاع اليوم مجعولين معناتها باش يرجعوا على صغارنا وصغار صغارنا معناتها في المستقبل تكنولوجيكمون بارلون وحتى فينانسيرمون بارلون. vous avez évoqué que les décisions d'aujourd'hui auront des retombées dans le futur pour nos enfants et nos petits-enfants, technologiquement parlant, parce qu'on sera connecté également, enfin on sera plus connecté, on l'est déjà, mais on sera plus connecté, et également financièrement, donc ces retombées financières. Oui, تكلم ايضا معناتها على الدور اللي تنجم تلعب تونس اليوم في باش تربط معناتها الشمال افريقيا وتكون معناتها عندها دور مهم استراتيجي واستراتيجي في شمال افريقيا وحتى الافريق سبساريان لانه الكابل يدخل تونس اما بعد باش يعبد باسكو لي كابل اريفري ان تونيزي ان كابل ابيزات مي il atterrirait également dans l'Afrique subsaharienne
serait prolongé en fait et permettrait
le câble peut arriver chez nos voisins aussi hein, donc c'est à nous de nous positionner.
Exactement, et plus tôt c'est fait, plus la probabilité que la Tunisie joue ce rôle. Et pour le faire en 2024 ou 2025, il faut décider les choses aujourd'hui. Voilà. Parce que sinon, la course est lancée, si je peux dire.
Voilà. Je pense que nous allons faire plus tard, plus tard, nous allons être présents, pour nous accueillir plus possible dans le business. Avec le savoir, comme nous l'avons dit, nous avons travaillé avec nous, qui est une grande compagnie, Amazon, Google, etc. Nous sommes installés dans une ville comme Marsilia, et cela revient à l'entrée du miné de Marsilia, le miné tijari, le عادي, aujourd'hui, le miné رقمي قاعد يدخل 8 مليار دولار تقريبا يعني كيف الميناء التجاري. Voilà, donc, je voulais faire le tour de la question en un temps record, hein. C'est une question complexe. Tout à l'heure, justement, Brenda Wade de Smart City est en train d'interagir avec nous et parler de l'importance. Donc, Bizerte peut être le point d'entrée de tout ça. L'Amérique peut se faire à Bizerte.
Oui, et c'est la première pierre à l'édifice, si je peux dire. C'est...
Parce qu'il y a cette initiative, donc,
peut-être exactement.
Tabler ou sur ce qui se fait déjà.
Oui, il faut arriver à faire une somme de ses volontés. Et la Tunisie a des atouts clairs. Il y a cette opportunité qui est à prendre. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à décider et à avancer et à passer, j'allais dire, déjà en mode projet et à être présent sur la carte numérique des câbles sous-marins de la Méditerranée.
Merci beaucoup. Shukran lik. شكرا على قبولك دعوتنا اليوم السيد داميان بيرتران. دونك نذكر مختص وخبير في المجال الرقمي اكسبير اون كونيكتيفيتي. نشكرك على حضورك معنا اليوم. ميرسي ا فو.
Je vous en prie. Bonne journée.
شكرا لك. هكا وصلنا لنهايه الحوارات. توت سويت نمشيو مع سي لطفي خزيمي نختموا مع ديريكت بورسو.